що є стрефасиві. Сили, я хочу тиманатися. І не випа, я сайди. Шкуба, ей, отака.
Je crois vraiment que où on retrouve une atmosphère que vous semblez souhaiter pour continuer. Vous voulez continuer la séance? Alors je demande.
Vous voyez les peintres?
Je vous demande, s'il vous plaît. Si, puisque vous voulez continuer cette séance, je propose que Huberdal propose les axes du débat de ce soir. Huberdal?
Si vous voulez.
Barney 26 on West 37.
Oui. Bon, si vous voulez, je vous propose deux ou trois axes de discussion et je ne serai pas long, je donnerai rapidement la parole aux autres invités. Je vais simplement essayer, puis à la salle, je vais simplement essayer de préciser quels pourraient être les axes d'une réflexion sur comment se mettre en place de nouveaux dispositifs de contrôle social. Alors, bon, si vous voulez vous taire deux minutes, ça me permettrait peut-être d'avancer dans le débat. Je pense que parmi les deux axes principaux, les deux stratégies générales de la mise en place d'un nouveau ordre social, il y a un mode que je qualifierais d'archaïque. C'est tout archaïque parce qu'il est peut-être destiné un petit peu à la fois à Saint-Menuzier. C'est tout ce qu'on voit apparaître actuellement autour de la montée de la notion de la sécurité, de la doctrine de la sécurité. Et l'autre qui est sans doute celle qui nous attend dans les années à venir, qui est la mise en place d'autres mécanismes préférant une réponse en termes de répression ou en termes de loi, une réponse en termes de gestion de masse, en termes de gestion de population, une gestion qui est rendue possible par l'arrivée et le développement de nouvelles technologies. Alors, en ce qui concerne cette forme, je propose ici uniquement quelques pistes de réflexion qui pourraient être débattues entre nous. En ce qui concerne ce que j'appellerais le modèle archaïque, on assiste depuis quelque temps à une montée de la notion de la sécurité, même si cette montée prend des formes différentes dans les pays européens au même moment. Montée de l'insécurité liée à des campagnes d'intoxication sur la montée de la violence ou de la criminalité, montée du terrorisme, et en face de cela, toute une série de modifications de type législative ou réglementaire ou des pratiques des appareils répressifs dans les différents États européens. Un peu à la recherche d'un consensus social, un consensus qui irait au-delà des différentes classes sociales et qui serait fondé sur la nécessité de lutter contre cette montée de la violence ou de l'insécurité. Et on voit toute une série de sous-produits dans le champ du domaine juridique par la légalisation de certaines pratiques policières, par un mode de législation à l'exception où on lance une campagne sur un thème déterminé et dans la foulée de cette campagne de mass media, on procède à une modification. Je cite par exemple la campagne qui a lieu sur les incidents en période de sortie et qui s'est traduite par une loi créant d'abord une première réglementation pour les quartiers de haute sécurité et une deuxième loi rendant extrêmement difficile de la possibilité des permissions de sortie et limitant progressivement la présence du juge d'application des peines. C'est ainsi qu'actuellement, on a à l'intérieur des prisons un taux record. Jamais il n'y a eu autant de détenus et de condamnés au même moment dans les prisons françaises. L'ensemble de cette stratégie est très sophistiquée puisqu'elle requiert la participation des citoyens et que par les campagnes intensives de masse média, elle produit un certain consensus pour qu'on porte atteinte à un minimum de liberté et de droits qui jusqu'à maintenant étaient fondamentaux. La deuxième technique qui est beaucoup plus sophistiquée et qui est probablement celle qui nous attend et qui existe déjà et qui est appelée à se développer, c'est celle qui recherche un fonctionnement du pouvoir au moindre coût qui, au lieu de maintenir l'ordre par des techniques de répression, cherche de plus en plus à gérer les populations, plutôt prévenir que guérir, mettre en place des mécanismes qui permettent de réguler le système social, de prévenir les conflits et d'intervenir avant qu'ils n'éclatent. On voit apparaître un développement d'une espèce de prévention généralisée, et cette prévention généralisée, qui est une vieille idée qui existait déjà il y a une trentaine ou une cinquantaine d'années, est rendu possible par le développement de la technologie de l'informatique qui a mis en place un outil qui permet à cette prévention de prendre une dimension qu'elle n'a jamais pu attendre et atteindre et qui peut lui permettre de prétendre à une certaine exhaustivité dans le traitement massif et dans la gestion de grandes catégories de population. On voit apparaître dans le même ordre d'idées un transfert progressif des conflits du judiciaire, dont la fonction générale était effectivement de réguler ces conflits, à l'administration, à une série de commissions, à une série de mécanismes plus ou moins secrets et de lieux différents. On voit apparaître aussi l'érosion du concept de l'égalité avec de plus en plus un fonctionnement du système social à la norme, avec des quantités de lieux nouveaux de pouvoir qui émergent et qui créent eux-mêmes leur propre normalité, leur propre légalité. Alors les trois thèmes que je voudrais proposer à la discussion, le premier c'est que signifie cette espèce de montée de la sécurité du citoyen et de l'État, est-ce que c'est quelque chose de transitoire ou c'est quelque chose qui est appelé à se développer, quelles sont les restructurations juridiques qui se font à l'abri de cette montée de la sécurité. La deuxième qui me paraît plus importante, la deuxième perspective et qui entre plus directement dans l'objet du débat d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est que cette société au contrôle social généralisé qui est en train de se profiler, et qu'est-ce que c'est que cette possibilité nouvelle offerte par des nouvelles technologies pour accroître ce contrôle social. Et est-ce que ces nouvelles technologies n'introduisent pas de nouvelles rationalités dans la gestion des conflits, dans la gestion des corps sociaux et des populations? Qu'est-ce que c'est que cette prévention généralisée et qu'est-ce que c'est que ce nouvel gestion des conflits sociaux? Qu'est-ce que c'est que ces transferts de lieux et ces transferts et ces changements de techniques de régulation sociale? Et la dernière question qui me paraît très débattue et qui renvoie aux possibilités de résistance par rapport à cette évolution, c'est quelle est la capacité du droit ou de la loi à contrôler, à modifier, à orienter ces processus? Comment peut-on encore introduire des procédures démocratiques dans ces nouveaux modes de gestion et de régulation? Alors, c'est autour de ces thèmes-là, si vous voulez, que je propose d'organiser la discussion. Et je ne sais pas qui pourrait commencer à me prendre la parole, peut-être Casamayor.
Mais je pense qu'il serait très important qu'on sache déjà ce qui existe et ce qui existe depuis quelque temps. Parce que la mise au pas, elle est évidente, mais autrefois, elle existait inconsciemment. Parce que la notion d'ordre, elle n'a pas tellement changé à cet égard. On n'a pas fait beaucoup d'avance, ni dans le sens de la répression d'ailleurs, sauf sur le plan matériel, ni dans le sens du libéralisme, en tout cas de l'autonomie de chaque individu. À mon avis, il y aurait deux mystifications dont il faut se méfier. D'abord, c'est cette notion de sécurité. Actuellement, vous le voyez, il n'y a aucun problème. On continue, je l'avais dit hier, mais c'est important de le répéter puisque c'est notre réunion de ce soir. La sécurité pour le pouvoir et aussi pour la quasi-majorité des citoyens, lesquels ont entendu ce mensonge répété depuis des millénaires, sinon eux, du moins leurs arrière-grands-pères jusqu'à Adam, c'est que la sécurité, c'est la répression. Or, la sécurité, les types veulent la sécurité. Ils ont peur, ils ont peur de la mort, ils ont peur de telle chose. Et le fait de vouloir la sécurité n'est pas une chose dangereuse en soi, elle est tout à fait normale. Et un État qui marcherait bien, et dont les qualités se mesurent au service qui rend, c'est un État qui vous sécuriserait, mais sécuriserait réellement. d'avenir permettrait à chacun de s'épanouir au maximum de ses ressources et de ses facultés. Or, exploitant ce sentiment, les gouvernants, et plus que d'ailleurs actuellement,
les millions de petits,
il y a d'abord le matraquage, en principe, sur n'importe qui aujourd'hui peut porter, et ensuite, notre investissement dans une certaine mesure de votre intimité, parce que vous n'êtes pas capable d'assurer votre salut vous-même. Il y a une grande infantilisation du public. Donc vous dites, c'est pour nous sauver les petits que nous intervenons, que nous faisons ceci, que nous faisons cela, que nous venons à des points de rue, que nous mettons en premier plan. Malheureusement, il est extrêmement difficile de faire comprendre que la sécurité, c'est autre chose que la prison.
We're talking about our freedom normally, we take ourselves into the right there, you know.
J'ai été, je prends un exemple, j'ai été adressé 6 fois en 3 semaines. Je suis une ouvrière qui a 3000 francs par mois. Et vous, ça vous est bien égal, mais moi, je risque la peau chaque fois que je rentre chez moi. Et il faut se mettre à la place de cette bonne dame. Alors, moi, je lui ai dit, mais bien sûr, si je pouvais, je vous ferais un rempart de mon corps. Mais le problème, c'est qu'il ne suffirait pas. Il ne suffirait pas. Qu'on vienne matraquer les gens. Seulement, cette notion de répression, elle est actuellement, et là Hubert a raison de le dire, elle est aussi exploitée au maximum. Parce que si quelqu'un vient se plaindre de ce qu'on lui a volé son sac, par exemple, de ce qu'on l'a molesté, il va se plaindre à qui? Il va se plaindre à des policiers. Malheureusement, n'est pas là, il va venir sans doute tout à l'heure. Il vous donnera son point de vue. Et beaucoup de policiers viennent dire de la pauvre dame, mais ils ne pourront rien quand c'est une dame. Vous comprenez? D'abord, nous sommes débordés, parce que le débordement ou la suremploi, c'est l'excuse de ceux qui ne veulent rien faire. Mais surtout, de toute façon, c'est qu'on s'enlève et relâche au bout de 5 minutes. Et la dame a l'impression que si on relâche les gens au bout de 5 minutes, elle est perdue. Et c'est pas seulement la dame. Là-dessus, sur le coupable, cette notion de coupable qui a de millénaire et qui est tellement commode. Coupable, répression, répression, sécurité, sécurité, obéissance à celui qui réprime, à celui qui frappe. En réalité, nous avons autre chose à voir actuellement, parce que la difficulté ne consiste surtout à savoir où nous en sommes. Nous vivons dans une société extrêmement parasitée. Et il est très difficile de savoir où sont les véritables tensions, où sont les véritables problèmes. Et quand on vous parle des conflits, il y a des tas de conflits qui sont résolus bien à bien d'autres endroits que devant des tribunaux. D'abord, il y a des conflits d'amitié, quand on s'arrange entre soi. Et puis, il y a des conflits où on a besoin de quelqu'un qui voulait résoudre, puis il y a des conflits qui se résolvent dans les syndicats, dans les associations, il y a des conflits qui se résolvent dans les élections, d'autres se résolvent par des lois, d'autres se résolvent par des guerres. Par conséquent, il faut bien savoir que où il faut rechercher les conflits, il faut en rechercher la source d'une façon tout à fait concrète, tout à fait matérielle. Et c'est pourquoi tout à l'heure j'ai rigolé après Makioki, mais elle nous a pas dit tout l'Iran, bien sûr. Elle nous a apporté quoi? Une impression de touristes compétents, mais sensibles en 8 jours. En 8 jours, on ne connaît pas le problème. Par conséquent, moi, je m'arrête, je passe la parole à mes camarades. Hubert, à toi.
Cette montée, disons, de la répression proprement dite, ce qui me paraît intéressant, c'est d'essayer d'inventorier et d'essayer de deviner ou de voir quels sont les autres mécanismes de régulation qui eux aussi répondent à ce concept de sécurité et qui permet de maintenir cette espèce de nouvel ordre intérieur à l'abri duquel se profilent des restructurations de type économique ou politique. Alors je passerai la parole à Louis Jeunet pour interroger un peu sur ces espèces d'autres mécanismes qui se mettent en place et en quoi les technologies modernes telles que l'informatique ont permis le développement de techniques de régulation sociale qui, si elles apparaissent comme moins répressives, permettent quand même le maintien d'un certain ordre.
Okay. 14 in response 11, Santillo Lane, Norton in Township. 450-year-old male on response to possibly an active seizure on a breathing status. They are
Et là encore, je parlerai un peu du point de vue du juge. Nous sommes réunis pour essayer d'approfondir la réflexion sur l'ordre interne.
Il faut voir que un danger
de ce débat, c'est de ne faire qu'illustrer une situation en dénonçant, comme je l'ai dit tout à l'heure, des applications informatiques, des réformes juridiques qui ont pour but de maintenir l'ordre interne. Mais je crois qu'il faut préalablement à cela essayer d'aller plus profondément et de voir quelle est la finalité poursuivie. Or, cette finalité, c'est l'obtention d'un consensus social. Quand un ordre s'établit à un moment donné, pour le maintenir, il y a soit la contrainte et de voir quelle soit la persuasion. Dans les deux cas, ce que l'on veut obtenir, c'est un consensus. Et de ce point de vue, je citerai une phrase qui m'apparaît importante, elle est du directeur de la division des droits de l'homme de l'ONU, Van Boven, et qui a écrit récemment que on se rendrait compte dans les années qui viennent que parmi tous les droits de l'homme, le droit le plus fondamental est le droit à la différence. Or précisément, j'ajouterai un mot, le droit à la différence dans la réflexion théorique. Et pour moi, c'est ça, Vincennes. Je suis loin d'être d'accord avec tout ce que j'ai pu entendre, et je pense que beaucoup de gens ou de mes supérieurs ne seraient pas d'accord sur ma présence ici ou sur ce que je vais dire. Car je crois qu'ils ne comprendraient pas que ce que je vais dire, je ne suis pas nécessairement d'accord avec, en l'état de ma réflexion. Mais je pense que c'est fondamental d'essayer d'avoir une réflexion théorique différente de tous les schémas dans lesquels quotidiennement je suis amené à raisonner. Autrement dit, ça n'a rien de subversif ma présence ici, mais je suis persuadé que pour certains, ils ne comprennent pas qu'un magistrat puisse être présent ici et puisse tenir un discours que je vais tenir sur la Constitution et je l'aborde. En effet, pour le juriste, le consensus social, ça s'articule autour d'un texte qu'on appelle la Constitution. Le problème est que la discussion théorique est encore plus difficile, mais il développer. Mais je vais m'expliquer. Je ne connais jamais que dans la peau dans laquelle je suis né. Je ne fais pas mon témoignage, je le retourne au centrifuge. J'en explique. Or, nous possibilitons de diverger avec un consensus social qui est cristallisé juridiquement dans une constitution. C'est grave. C'est un crime contre la sécurité de l'État. Ce n'est pas un hasard si, par exemple, dans le régime de la République fédérale d'Allemagne, il existe crime contre la Constitution et la police constitutionnelle. Alors j'entends qu'il y a bien une différence entre celui qui accomplit des actes de violence directe contre l'ordre établi, et il y a aussi une différence entre celui qui, de bonne foi, essaie de réfléchir à un état de droit. Un type de société, j'emploie des mots un peu simples, je m'en excuse, divergent de celui qui est en discussion et qui fait le consensus et qui est cristallisé dans le consensus. De ce point de vue, je pense que quoi qu'on parle de Vincennes, le droit à la différence dans la réflexion théorique apportée par Vincennes doit être à tout prix maintenu.
Par exemple,
auquel s'ajoute l'ordinateur. balle d'information pour ensuite définir, je m'excuse de me répéter, des profils d'orientation qui ensuite font qu'on désindividualise l'information sur chaque élève et on les oriente à partir de ce profil général. Et comme il est Je ne nie pas la pertinence de l'argument, je vous demande simplement qu'on admette aussi le mien, c'est tout. Oui, ben les films existent, par exemple, si on prend un cas concret en matière de connaissance de domaine, le film, je n'ai rien contre, mais après le film, il y a le microfilm. Puis après le microfiche, il y a la microfiche. Puis après la microfiche, il y a système code, c'est-à-dire la microfiche en sortie d'ordinateur. C'est un interprète, je pose des questions et je demande de voir réfléchir différemment par rapport à ce que je aujourd'hui, c'est la même chose que celui d'hier, et que la meilleure manière de disqualifier l'ordre d'aujourd'hui ou de le dénoncer, c'est de montrer que c'est tout pareil ou même que l'ordre précédent. Bonjour, tout de même, c'est important pour nous, pour notre vie, pour notre existence, notre individualité, pour ce que nous voulons être et faire, de savoir en quoi l'ordre qui est en train de s'installer maintenant est effectivement un ordre nouveau, ce qu'il a de spécifique et en quoi il diffère de ce que pouvait être l'ordre des régimes précédents. Bon, je crois que tout de même les années que nous abordons maintenant sont et seront caractérisées pour encore des décennies, un demi-siècle au moins, par ce qu'on appelle bien sûr la rareté de l'énergie, ou en tout cas le fait que cette énergie, qui n'est pas telle aussi rare qu'on le dit, va être une énergie chère. Mais les pays occidentaux, puisqu'occidentaux nous sommes, et que c'est en tant qu'occidentaux que nous réagissons et que nous parlons, les pays occidentaux ont vécu jusqu'à présent sur un pillage énergétique du reste du monde, grâce à quoi nous avons pu assurer et notre croissance économique et notre bien-être, et également les systèmes politiques dans lesquels nous avons vécu. Maintenant, il n'en est plus question, et il ne peut plus en être question. c'est que l'État tel qu'il a fonctionné jusqu'à maintenant est un État qui n'est plus en situation et ne se sent pas capable de gérer, maîtriser, contrôler toute la série de problèmes, de conflits, de luttes vraisemblablement d'ordre économique et social que risque d'engendrer cette situation d'économie, d'énergie chère. Autrement dit, l'État a jusqu'à présent fonctionné comme un État-providence. Il ne peut plus, dans la situation économique actuelle, être un État-providence. Je crois qu'à ce moment-là, et en ce point précis de ces années, il y a deux possibilités. Il y a une possibilité qu'on pourrait appeler en gros la possibilité fasciste, et je ne crois pas, si on prend ce terme fasciste, on se prend un sens strict, que ce soit exactement cette possibilité qui nous menace. J'appelle en tout cas possibilité fasciste ce qui se passe dans un pays dans lequel l'appareil d'État ne peut plus assurer ses fonctions qu'à une condition qui est celle de se doubler d'un parti tout puissant, d'un parti omniprésent, d'un parti au-dessus des lois et hors du droit qui fait régner à côté de l'État, dans les mailles de l'État et jusque dans l'appareil même de l'État, la terreur. Je ne pense pas que pour l'instant, dans un pays comme la France, ce soit cette solution du doublage de l'impuissance d'État par la toute-puissance du parti qui soit ce qui nous menace. La solution envisagée, enfin la stratégie vers laquelle on s'oriente, avec tous les retournements possibles, vers la première solution, bien sûr, qui peut se produire en cas de tension très grave. La seconde solution, c'est celle dont Hubert Dahl parlait tout à l'heure, solution plus sophistiquée et qui se présente en premier regard, si vous voulez, comme une sorte de désinvestissement de l'État. Comme si l'État se désintéressait d'un certain nombre de choses, de problèmes et de détails menus auxquels, jusqu'à présent, il avait cru devoir porter une attention particulière et éveillée. Autrement dit, je crois que l'État se trouve actuellement dans une situation telle qu'il ne peut plus se payer le luxe, qu'il ne peut plus se payer politiquement et économiquement l'exercice d'un pouvoir omniprésent, tatillon et coûteux. Il est obligé de faire de l'économie même sur son propre exercice de pouvoir. Et cette économie, eh bien, ça va se traduire, je crois, par justement ce changement dans le style et la forme de l'ordre intérieur. L'ordre intérieur, au fond, au 19e siècle, au 20e siècle encore, il était projeté, il était programmé au moins comme une sorte de discipline exhaustive s'exerçant indéfiniment et constamment sur tous les individus et chacun d'eux. Bon, je crois que maintenant, le nouvel ordre intérieur obéit à une nouvelle économie. Une nouvelle économie qui se caractérise par quoi ? Premièrement, le marquage, le repérage d'un certain nombre de zones qu'on peut dire zones vulnérables et sur lesquelles l'État ne veut en aucun cas passer, ni passer quoi que ce soit. Et pratiquement, si vous voyez ce que, dans un des pays comme la France ou comme l'Allemagne fédérale, on appelle le terrorisme, c'est bien précisément ces comportements qui se situent dans cette zone de dangerosité, dans cette zone d'extrême vulnérabilité, où il est décidé que là, on ne passera rien. On ne passera rien, et sur ces points-là, les peines deviennent à la fois plus nombreuses, plus fortes, plus intenses, plus impitoyable, etc. Donc, première chose, je crois, de cette nouvelle économie, le repérage de zones vulnérables. Deuxièmement, et en corrélation d'ailleurs, des espèces de marges de tolérance. Et sur un certain nombre de points, il est certain que, disons, la tatillonnerie policière, les contrôles quotidiens, pesants, maladroits d'ailleurs, vont se relâcher, car finalement, il est beaucoup plus facile de laisser un certain pourcentage de délinquance, un certain pourcentage d'illégalisme, un certain pourcentage d'irrégularité dans la société,
ces marches finalement prennent une fonction régulatrice. Le troisième caractère de, ce nouvel ordre intérieur, c'est, je crois, ce qu'il condition même pour qu'il fonctionne, c'est-à-dire qu'il puisse fonctionner sur ces zones vulnérables d'une façon précise et intense, et en contrôlant de façon beaucoup plus lointaine les marges de tolérance, eh bien, la condition pour que tout ça puisse fonctionner, c'est un système d'information générale, c'est-à-dire celui dont Louis Joinet vient de vous parler. Il faut un système d'information qui n'est pas tellement la surveillance de chaque individu que la possibilité à chaque instant d'intervenir là où précisément il y aurait création et constitution de danger, là où il apparaîtrait quelque chose qui serait absolument intolérable pour le pouvoir. D'où la nécessité de répandre sur toute la société et à travers elle un système d'information qui est un système en quelque sorte virtuel, qui ne va s'actualiser et qui ne servira effectivement, qui ne prendra forme instrumentale que dans certaines. C'est un système en quelque sorte incertain, qui est en quelque sorte l'état de mobilisation permanente du savoir de l'État sur les individus. Enfin, la quatrième condition pour que ce nouvel ordre intérieur fonctionne, c'est la constitution d'un consensus. La constitution d'un consensus qui, évidemment, passe par toutes ces sortes de contrôles, coercitions, incitations, en tout cas, par l'intermédiaire des médias, qui va assurer, en effet, en quelque sorte spontanément, et sans que le pouvoir ait à intervenir lui-même, sans qu'il ait à se payer le coût d'un exercice de pouvoir parfois très élevé, eh bien, il va y avoir par là une régulation spontanée qui va faire que l'ordre social va s'auto-engendrer, va se continuer, s'auto-réguler par ses propres agents, de telle manière que dans cette situation ainsi régularisée par elle-même, le pouvoir aura la possibilité d'intervenir le moins possible, de la manière la plus discrète possible, elle sera à ce moment-là aux différents partenaires économiques et sociaux, de rester sous le contrôle d'un État qui aura l'air à la fois distrait et bienveillant. Les conflits, les contradictions, les hostilités et les luttes que la situation économique ne pourra pas manquer de soulever. Et c'est dans cette espèce de retrait apparent du pouvoir, pour qu'on n'ait pas à lui faire porter la responsabilité des conflits économiques, pour que les conflits économiques puissent se résoudre entre les partenaires, c'est grâce à cela et à travers ce retrait que vont s'opérer ces différents moyens par lesquels l'ordre intérieur va régner sur un mode qui est, je crois, très différent en effet de celui qu'on avait fonctionné lorsque l'État pouvait se payer le luxe d'être un État à la fois providence et omni-surveillant. Bon, voilà une vague esquisse, non pas d'explication, mais une mise en place de ces phénomènes sur lesquels on pourrait maintenant peut-être discuter un peu plus précisément.
lutte contre et elle s'adapte. Or, dire que c'est la pagaille dans l'appareil d'État, je demande à voir. Je demande à voir. Je demande simplement qu'on prenne des photos dans la presse d'il y a 10 ans et de maintenant, et qu'on vérifie simplement comment est équipé un policier maintenant et comment il l'était il y a 10 ans. Que l'on vérifie comment est un appareil transmetteur dans une manifestation maintenant, il y a 10 ans. Comment fonctionne une mini-caméra cachée dans un manifestant maintenant et il y a 10 ans.
Oui, il faudrait que tu t'approches.
Je m'excuse de faire chemin à rebours parce que ma question... Moi, je passe la parole pour une autre question sur l'ordre intérieur. Après, je vous la passerai.
Une question posée directement au professeur Louis Joannet. Il a parlé dans le processus. Oui, c'est un magistrat. Il a parlé de deux alternatives qui sont liées dialectiquement, si l'on peut dire. C'est d'un côté l'application de la technique et, disons, une militaro-technisation de la société. D'un autre côté, donner à la société l'aspect, la militarisation, et puis donner à la société cet aspect plutôt qu'il a présenté comme étant un aspect relevant du fascisme. C'est là ce que j'ai lu du moins dans un texte qu'il a publié dans Le Monde diplomatique. Mais tout à l'heure, il parlait de la société française, il parlait du parti qui pouvait être superposé à l'État et qui serait un stimulant. Non, c'est lui qui parlait du moins dans la société. Dans la société, dans cette société, il dit dans la société française, actuellement, qui est une société démocratique, du moins formellement, mais il a dit pratiquement, le professeur Louis Joannet, il dit on ne peut pas avoir ce phénomène. Dans la société, ce qu'il veut dire pour la société occidentale, est-ce que actuellement...